Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
J'ai des choses à vous dire. Vous pouvez peut-être le deviner. Hein? Je ne suis pas là pour rien. Alors, j'aimerais vous inviter, je vous invite d'ailleurs, eh bien, à l'ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, un grand prophète qui a écrit un grand livre dans l'Ancien Testament. Et nous savons qu'il nous dit des choses qui sont à la fois très belles, mais c'est véritablement, on a dit que Ésaïe, c'était le pré-évangile. Eh oui, voilà, le pré-évangile, l'évangile avant l'évangile, parce qu'il nous parle du Messie, parce qu'il nous parle par le détail, eh bien, des souffrances de Jésus, parce qu'il nous parle finalement, eh bien, qu'il y a là tout un monde nouveau qui va changer lorsque le Messie, lorsque eh bien, Jésus, le Sauveur, viendra. Alors pour nous, il est venu. D'accord ? On est bien dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Et pourtant, on va ouvrir le livre du prophète Ésaïe qui nous dit ceci. Ésaïe au chapitre 32, c'est très court. Et il est dit ceci, verset 20. D'accord ? Heureux vous qui partout semez le long des eaux. Alors, j'ai intitulé notre message « Une bouteille à la mer ». Alors, il est question naturellement, eh bien, de semences, de jeter. C'est le geste auguste, finalement, du semeur, hein, vous connaissez, on a appris ça à l'école. Le long des eaux, parce que ce n'est pas de le jeter tout simplement dans une mare stagnante, mais dans une rivière, dans un ruisseau, et qui va descendre finalement, eh bien, traverser des régions, des pays, et probablement finir dans la mer, dans l'océan, dans cette immensité que nous connaissons, c'est l'océan, la mer. Alors je rappelle ça, « Heureux vous qui semez le long des eaux, imprégnez-vous de cette pensée parce qu'elle va nous suivre jusqu'au bout ». Et le sens de l'expression, eh bien, c'est tout simplement sa image, le potentiel de vie. Eh oui, parce que cette petite bouteille, ou cette grande bouteille, eh bien là, elle porte la vie, l'espérance, pour celui qui l'a jetée, pour celui qui a mis un message dedans, pour lui et pour les autres qui vont recevoir, naturellement. Alors, elle est emportée par le mouvement, rapide ou non, mais ça descend, le mouvement qui emporte cette bouteille au loin, et elle est naturellement, eh bien, vectrice, où elle porte en elle-même le bonheur des résultats. Eh oui, vous enlevez le bouchon, vous y trouvez un papier, et vous le lisez, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, vous connaissez peut-être le destinataire, vous connaissez peut-être celui qui l'a envoyé, s'il a laissé quelques... Et puis il va y avoir une relation à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre. Une bouteille qui finalement, eh bien, va au gré du ruisseau, de la rivière. Alors cette rivière, tout simplement, eh bien, l'emporte. Et il y a là, naturellement, eh bien, des promesses qui sont dedans. Une bouée, je pourrais peut-être préciser, une bouée jetée à la mer, une bouée de secours. Eh oui, on en parlera tout à l'heure dans les naufrages, que ce soit les naufrages sur la mer, la marine, ou que ce soit dans une vie. Et quelquefois, il y a différentes déclinaisons de ce que l'on peut comprendre, de ce que nous pouvons, eh bien, imaginer d'une bouteille à la mer. Un secours, un appel, oui, un appel plus ou moins urgent, la pratique. Et c'est la pratique des naufragés en détresse. Parce que tout cela, c'est livré au hasard, ce que les hommes appellent le hasard, la coïncidence de trouver. Mais pour nous, ça a un autre sens. parce qu'il n'y a rien qui ne soit et qui n'échappe à la pensée de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Alors on peut toujours lui donner des mots, des explications, mais c'est quelque chose qui véritablement est mystérieux. Eh oui, je trouve une bouteille sur la plage, elle vient d'échouer ou elle a peut-être été enfouie dans le sable pendant des années. Et là, à ce moment-là, je me précipite pour rentrer chez moi et je l'ouvre et qu'est-ce que je vais découvrir? C'est mystérieux. Ça a toujours piqué l'attention des gens, hein? Ah oui, voilà. Vous en avez trouvé combien de bouteilles? Des bouteilles à la mer, hein? Je parle pas de... Non, attention, hein? Je suis sérieux ce matin. J'allais vous dire, vous en avez ouvert combien? Alors... Et nous voyons que tout cela est livré, soi-disant, selon le langage du monde, eh bien, au hasard, au gré des vagues qui véhiculent et portent au loin, de façon aléatoire. On ne sait pas si ça va aller ici, si ça va aller là, etc., etc. Parce que vous avez vu la mer, quand elle monte et elle descend, elle est toujours en train de balayer. Hein? Vous avez remarqué, c'est pas la vague qui est ici, qui va rester pendant les 6 heures, finalement, de marée haute ou de marée basse. Ça balaye. Et à un moment donné, vous avez une vague ici qui est plus haute que l'autre, plus haute que celle-ci. Parce que ça balaye tout ce qu'il y a autour. Et c'est une façon aléatoire, hein, tout simplement. Et il est question, parce que ça c'est l'essentiel, de la vie ou de la mort. Et oui, et la vie c'est ça, hein, quand on pénètre un peu les choses, c'est comme ça. J'aimerais relever quelques anecdotes, hein, qui sont intéressantes, parce que ce sont des choses relativement récentes. Et vous savez que les bouteilles à la mer, ça a toujours existé depuis la haute antiquité. Hein, là, un monde qui n'est plus le nôtre, un monde où il n'y a plus que des vestiges. Un monde, mais et il existait ce monde-là. Hein, et ils avaient déjà connu ce que c'était la navigation sur les fleuves, sur les océans, dans la tempête, dans le calme, etc. etc. D'ailleurs, quand vous lisez l'Ancien ou le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a des sacrés récits, hein, de navigation avec différentes fortunes. Eh oui. Les hommes ont toujours, soit pour militairement, pour se défendre, ou alors sur le plan des marchandises qui sont transportées. Alors aujourd'hui, quand on voit les tankers qui font 350 mètres, 400 mètres de long et qui font des hauteurs pas possibles, on se dit, si jamais ils se retournent, ça va faire du mal, hein, ça c'est sûr. Et de voir la technologie dont ils sont appareillés, parce qu'ils traversent le monde... Hein, et ils livrent soit des carburants, enfin tout ce que vous voulez, voilà, toutes sortes de choses. Alors, quelques faits qui ont été relevés. Il y a, c'est des rapports, hein, des chroniques, hein. Il y a 130 ans, il a été retrouvé tout simplement une bouteille et son pathétique message à l'intérieur sur une plage australienne. Alors, l'Australie, c'est pas là. Est-ce que ça venait de l'Europe? Est-ce que ça venait d'Angleterre? Est-ce que ça venait... Moi, je ne sais pas, avant même la découverte de ce que l'on connaît aujourd'hui sur le plan géographique. Il y a encore une autre anecdote. Dans la mer du Nord, en 1906, une bouteille a été recueillie et il s'est avéré qu'elle avait été envoyée 108 ans. Finalement, elle a été retrouvée 108 ans après qu'elle était jetée. Et il y avait un bon bouchon, hein, quand même. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, à la mer, ça ronge, hein, mais de toute façon, il y a des choses qui peuvent être comme ça. Et elle a été jetée dans les flots de la mer, hein, et c'est une des plus anciennes trouvailles que l'on a fait en bon état, hein, c'est ça, en bon état. Et ça s'est passé tout simplement eh bien, dans l'île de Jersey, c'est-à-dire sur la côte américaine, la côte est américaine. Et c'était un flacon qui a été finalement eh bien, identifié en 1876. Donc, vous comprenez, ça fait presque 150 ans maintenant, hein, quoi qu'il en soit. Une autre dans les Caraïbes, une autre, eh bien, a vogué pendant 16 ans parce qu'il y avait la date, hein, et avec un message. Et peut-être l'identification, parce que quelquefois, on voit ça un peu sur un Internet, hein, il y a des gens qui font des déclarations, hein, dans le commun, finalement des news, et quelquefois, ils disent ce qu'il y a, et on le lit. Et ça passe dans les journaux, ça passe même à la télévision, hein. Donc c'est quand même un fait, hein, la bouteille à la mer. Hein. Et tout cela, ça durait pendant des siècles et des siècles, avec différentes motivations, soit se faire connaître, soit se faire reconnaître, ou soit crier. Alors pour les Finalement, ceux qui sont impatients, si vous attendez 106 ans ou 108 ans, vous avez le temps de boire la tasse, hein, quoi qu'il en soit. Alors, c'est vrai que tout ça, eh bien, ce sont des choses qui défraient la chronique, quoi qu'il en soit. Ça peut être dans une rivière aussi, hein, coincée peut-être pendant des décennies à travers des rochers, peu importe, hein, quoi qu'il en soit. Alors, avec des messages de fortune, des gens qui retrouvent, qui essaient de retrouver, qui espèrent, parce qu'il y a eu un naufrage il y a tant d'années, et ils espèrent, hein, peut-être prient-ils, en disant « moi je voudrais bien avoir des nouvelles de mon mari qui était matelot sur tel navire, etc. S'il pouvait, et s'il a pu, jeter une bouteille à la mer, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir des nouvelles. » Quelquefois, il n'y a pas de réponse du tout. Hein. Ouais. C'est pas comme les PTT qui marchent très bien. Ah, ça, je tiens à le dire. Est-ce qu'il y a un facteur parmi nous ? Non, personne ne se déclare facteur. Voilà, bon, ben c'est très bien, parce que je vais en dire des choses sur la poste. Ça peut être également, et ça c'est les enfants, hein, ça peut être un jeu de piste aussi. Alors, nous, on n'a pas fait, moi j'ai fait pas mal de colonies de vacances avec les enfants, et nous, on ne faisait pas des bouteilles à la mer, parce qu'on était en pleine campagne, alors, par le temps qu'il fait aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais toujours est-il qu'on avait fait des ballons, avec des versets bibliques, hein, de toutes les couleurs, et on les avait laissés comme ça, et on a eu des réponses des gens qui étaient à la campagne, à 10 km, 20 km, etc. Vous savez, ça excitait les enfants, ça. Pour les tenir tranquilles, c'est pas mal. Ils sont là pendant des heures et des heures à regarder le ballon partir. Il y a longtemps qu'il était parti, le ballon. Hein. Mais il y a des gens qui rattrapent un petit peu, et ils disent, ça leur fait plaisir. Et on mettait des versets bibliques. Dieu t'aime, voilà. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que, attention, hein. Mais on faisait pas des choses comme ça. Hein, pas de menaces et tout ça. Alors des jeux de pistes mystérieux, enfin toutes sortes d'endroits et d'aventures qui étaient finalement révélées. J'ai eu l'occasion dernièrement, avec Myriam, un petit temps de vacances, de visiter la reproduction du vaisseau amiral de la Pérouse. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ouais, je vous dirai pas le lieu, mais... Hein. Et vraiment, on a été, parce que c'était des bateaux du XVIe siècle, oui, XVIe siècle, XVIIe siècle, hein. Et la Pérouse était un marin qui avait été délégué par le pouvoir royal, donc Louis XVI, pour faire le tour du monde et finalement toutes sortes de choses, la botanique, les plantes naturellement, les animaux, l'ethnologie, c'est-à-dire les différentes sortes de gens qui étaient dans le monde, et puis bien, plein de choses comme ça, hein, plein de choses. Et nous voyons que ce bateau, de la Pérouse, a disparu au bout de je ne sais pas combien de mois, même d'années, 2 ans je crois, dans le Pacifique, dans les îles Salomon. Donc il a disparu, il n'est jamais revenu finalement dans le royaume de France parce qu'il était mort. Oh, et puis même son équipage avait disparu. Son bateau s'appelait la Boussole. Ben lui, il a perdu la boussole à un moment donné, hein, ça c'est sûr. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Faites attention, quand vous donnez un nom, il faut savoir si véritablement c'est valable ou pas. Hein. Donc, et nous, on était médusés de voir ce que pouvait être un galion d'une époque d'il y a 2, 3 siècles, hein, 4 siècles même, 3 siècles, et une reproduction d'une tempête en mer. Wow ! Et, puis ça nous tombait dessus, hein. Ça descendait de tous les côtés, il y avait toutes sortes de choses. On voyait par les ouvertures qui étaient sur le côté, mais les vagues qui venaient frapper. Alors on se reculait, mais c'était bien quand même. Puis à un moment donné, le bateau chargé comme un baudet, à un moment donné il montait, il tanguait de droite et de gauche et tout ça. Les nauséeux s'abstenir. Mais je me dis, les gens vivaient pendant des années dans ce bateau, hein. Et ça, c'était quelque chose. Vraiment, ça m'a très impressionné. C'est pas pour ça que j'ai écrit, finalement, le message là, de la pensée à la mer. J'avais déjà écrit, mais ça venait confirmer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils étaient courageux, ces gens-là. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même peu de temps où on apprenait, les matelots ne savaient pas nager. Alors, enfin, même si vous savez nager, quand vous savez que vous n'avez rien à l'horizon, pas une île, rien du tout, vous avez le temps de vous faire croquer par les petites bêtes, vous savez, on appelle ça des poissons, mais des gros, hein, voilà. Alors, le monde a été signalé par des caravelles, bon, c'est On connaît celui qui a découvert l'Amérique, hein, comment il s'appelait Christophe Colomb, voilà, c'est ça. Alors, il y avait des gros galions qui s'enfonçaient dans la mer quand ils étaient au port, et ils transportaient finalement de la marchandise d'ici à la marchandise d'en face. Et puis, il y avait également des frégates, il y avait des corvettes, il y avait toutes sortes de choses. Il ne faut pas croire, hein. Vous savez, les technologies que nous avons aujourd'hui, c'est parti de là. Hein. Ah oui, parti de là. Il y avait naturellement, ces gens qui allaient à Terre-Neuve pour aller pendant 6 mois pêcher la morue. Enfin bon, toutes sortes de choses. Et qui, lorsqu'ils montaient sur les Doris, vous savez, c'était les petits bateaux qui allaient chercher. Et quand il y avait du brouillard, ils ne revenaient pas. Hein. Ils ne pouvaient plus se repérer. Voilà. Et ils mouraient. Beaucoup de marins sont morts comme ça, tout simplement. Alors, bouteille à la mer. Donc, c'est simplement pour illustrer un petit peu ce monde. Ce monde qui est là, et il faut le remettre aussi sur le plan spirituel. C'est beaucoup de naufrages, hein, même chez les chrétiens. Il y a également beaucoup de perditions, hein, je pense sur le plan moral, dans un monde comme le nôtre. Sur le plan spirituel, où les gens commencent bien, ils sont sur le pont du bateau, et puis finalement, ils vont partir, ils vont aller à l'aventure. Pour quelle raison? C'est quelque chose qui leur est propre. Donc, une bouteille à la mer, et c'est là où nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est un appel au secours, et sur le plan spirituel aussi. Et il y en a aussi des naufragés autour de nous. Il y en a des malheureux. Il y en a des gens qui n'arrivent pas à se coincer, si je veux dire, se stabiliser dans un monde déjanté. Ah, oui, on passe du Tour de France, là. Et vous savez, une route déjantée, ça fait ça. Hein? Alors attention. Hein. Et puis dans un monde de corruption, et puis dans un monde de drogue, dans un monde d'alcoolisme, dans un monde d'abus de l'autre, hein, où on ne tient pas compte. Donc c'est un appel au secours, cette bouteille à la mer. Cette bouteille, on l'a avec nous, hein, et elle ne prendra jamais l'eau. C'est la Bible, hein. C'est le message de Jésus. On l'a finalement, soit en bouteille ou on l'a au fond de notre cœur. Si on a eu la chance, si on a eu la grâce, finalement, d'entendre parler du nom de Jésus, il est suffisant pour sauver tous les hommes.
Amen.
De toute manière. Voilà. Alors, un appel au secours, c'est de recherche parfois de contact avec d'autres mondes, avec d'autres gens, certainement, et livré à l'improbable. Est-ce que vous savez ce qui va arriver demain? Non, vous ne le savez pas. Bon, on peut, si on regarde les informations, ce n'est pas réjouissant, hein, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est l'improbable. C'est tout simplement abandonner au gré des flots, je dirais, de toutes les informations négatives que nous avons. Un jour, c'est d'une manière, un autre, c'est d'une autre. Alors, on peut faire confiance à notre Donald national. Il n'est pas national pour nous, mais... Vous connaissez Donald de Walt Disney? Oui, enfin bon, peu importe. Alors, au gré des flots, sans savoir sa destination précise, parce qu'on ne sait pas où on va, un jour on nous dit une chose, un jour on nous dit une autre chose. Voilà, c'est du déni, on se reprend, voilà. Destination imprécise, message sur un papier enfermé, tout simplement. Eh bien, dans l'étanchéité d'une vulgaire bouteille. Eh oui, souvent des choses très précieuses, on les met dans un coffret, on les met dans quelque chose qui est tout à fait approprié, hein, c'est une valeur, c'est quelque chose. Mais là, une simple bouteille, un bouchon, c'est étanche, et puis il y a un message qui a une importance de vie ou de mort. Tout simplement. On n'a pas inventé quelque chose de nouveau pour ça. Alors, nous avons tout cela en mémoire, et c'est une écriture. Comme quoi l'écriture la sauve toujours. Hein. Alors l'écriture que nous avons là, mais l'écriture d'un homme qui écrit et qui est en train d'exposer sa détresse, son désarroi, ça, c'est quelque chose de précieux. C'est vrai, c'est quelque chose. Quelqu'un attend quelque part pour trouver la solution. Eh bien, ça peut devenir quand on ne trouve pas, quand on est en train d'errer toute une vie, ça peut devenir un symbole de désespoir. Moi, j'ai pas le pied marin, hein. mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils étaient courageux, nos matelots d'hier. Hein. On a une belle histoire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, avec Paul. Lui, il a une mission. Il doit rencontrer l'empereur à Rome. Parce qu'il va falloir que l'empereur lui fasse justice des injustices. Tout simplement. Il est innocent, mais on l'a condamné. Et il va rester naturellement 4 ans en prison. 2 ans en Palestine et 2 ans à Rome. Et il a pourtant un message à faire passer. Et nous voyons que il est véritablement un homme qui va tenir et qui va pouvoir rendre témoignage au roi, à l'empereur, certainement, et il sera absous, quoi qu'il en soit, tout simplement. Symbole de désespoir et de réponse quasi impossible. Ouais, et pourtant, c'est porté à travers, finalement, une vie, une bouteille à la mer. Et quand on voit le périple, il a passé pendant un mois sur la Méditerranée en furie, où il est dit, il n'y avait même plus de lumière de la lune, il n'y avait plus de lumière des étoiles, on ne voyait plus rien, et ils avaient pensé qu'ils allaient tous mourir, tout simplement au fond de la mer. Tout simplement. Nous allons aller encore plus loin. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, écoutez bien ce passage, parce que moi je trouve qu'il est très beau. Il est dit, « Jette ton pain à la surface des eaux. » Car avec le temps, écoutez bien la promesse, tu le retrouveras. Tu ne sais pas comment tu vas le retrouver, tu ne sais pas dans quel état tu vas le retrouver, mais néanmoins, ça c'est véritablement le mystère de l'avenir, quoi qu'il en soit. Un peu plus loin, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sème point, et celui qui regarde les nuages ne moissonne point. » Donc, on ne peut pas se désintéresser finalement de la situation. Si tu veux manger du pain, il faut semer le blé. Et puis si tu regardes les nuages, ça ne changera pas grand-chose. Oui. Et ça, c'est important parce que c'est une mise en garde d'être attentif, d'attention. Et puis le verset 6 nous dit, dès le matin, sème ta semence, n'attends pas que tu sois vieux, n'attends pas que ta vie soit passée. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Moi, je voudrais souligner une chose très importante, c'est que Dieu est le temps du temps et le Dieu du temps et des conditions, Ouais, c'est lui, c'est pas nous, il est souverain. Et ça, moi, je pense que ça, c'est notre espoir. Seigneur, je t'ai confié ce qu'est ma vie, je t'ai confié mes détresses, je t'ai confié mon mal, ma maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Je t'ai confié mes troubles spirituels aussi, Seigneur. Mais toi, tu en fais ce que tu veux. Je me plie au protocole de ton Esprit Saint qui veut le meilleur pour moi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Ah ouais, ça c'est sûr. Et si en vous le disant, je vous le dis, c'est qu'on en a fait l'expérience. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui raconte des histoires et qui regarde dans les journaux pour savoir ce qu'il va dire dans la prédication. Non, on peut donner des anecdotes. Mais une chose qui est certaine, c'est que, vous savez, le meilleur de tous les pasteurs, c'est celui qui fait des expériences, qui a fait des expériences avec Dieu, et qui peut dire, mais Dieu tient parole.
Amen.
Dieu tient parole. Alors, voilà ce que nous dit ce passage. L'imprévisibilité du temps. On ne maîtrise rien, Eh oui. Et les circonstances. Parce que le mot « fortuité » ou le mot « hasard », ça n'existe pas dans le langage, tout simplement, des chrétiens. Coïncidence également. L'idée a aussi un sens pertinent spirituel, derrière cette image que nous développons, signifiant « au gré de la volonté de Dieu ». Vous savez, il y a cette parole que moi j'aime beaucoup, je m'en réfère. Quand il est dit ceci, « c'est toi qui crée en moi ». Le vouloir et le faire, ça c'est ma part humaine, selon ton bon plaisir. Donc je mets le bon plaisir de Dieu avant moi. Et Dieu va me conduire et me diriger, parce qu'il sait très bien ce qu'il veut. Nous avons tous un appel de Dieu à un moment ou à un autre, quel qu'il soit. Et il n'y a pas un appel plus grand que l'autre. C'est pas parce que l'un est prophète, l'autre est pasteur, l'autre est évangéliste, que même celui, moi je dis, honorons nos gens qui font tourner les églises, ne serait-ce qu'avec leurs offrandes, ne serait-ce que ceux qui font le ménage. Non, moi je ne sais pas que, vous savez, le monde, il y a des hiérarchies. et il méprise les uns et il encense les autres. Oui. Vous savez, moi je pense que c'est l'humilité et l'amour qui doit finalement... ouais. C'est ça ce qui est important. Parce qu'il est le maître souverain sur tout et de toute chose. Jette ton pain. Qu'est-ce que c'est jeter ? S'en débarrasser ? Aller à la poubelle ? Jette. C'est péjoratif, hein ? C'est vrai que c'est pas... on pense qu'un objet ou tout simplement un objet cassé ou peut-être une nourriture quand elle a passé de date, eh bien à ce moment-là, on jette, tout simplement. Mais là, c'est un geste d'espérance. Je jette. Le laboureur, après avoir dépierré, il jette la semence. Et il fait ça pendant des jours et des jours et des jours, etc. Mais il sait très bien qu'il va la retrouver, non pas comme un petit grain, mais comme un épi. Et il ne va pas jeter qu'une graine. Ça va être un champ. C'est la fortune. C'est la fortune. C'est synonyme de répandre, jeter, d'abandonner à la providence. Je mets ça entre guillemets. Je jette sur la terre, mais c'est déjà jeté dans le ciel. Où le ciel va me répondre par les saisons, par la pluie, par tout ce qui sera naturellement mis en place par Dieu, et je vais le récupérer sur la terre. Mais pas comme je l'ai jeté. Valoriser, transformer. Et ça va être la nourriture qui va donner la vie au monde. Quoi qu'il en soit, c'est semer, c'est enfouir, tout simplement, comme une injonction biblique qui nous dit ceci, « Dieu, tu donnes la semence à celui qui sème et le pain à celui qui mange. » Pendant des années, parce que ça m'est arrivé quelquefois de tomber en panne, de dire « Mais dimanche prochain, qu'est-ce que je vais dire ?» Quelquefois, c'était le samedi après-midi, « Qu'est-ce que je vais dire demain matin ?» Ah ! Alors, chercher des bouteilles partout. Je les envoyais en l'air. Je rôtais le bouchon pour que ce soit plus facile et moins lourd. Enfin, quoi que c'est du liège. Et c'est vrai. Moi, c'est une parole. Je dis, Seigneur, écoute. Tu m'as appelé. Bon, je suis ce que je suis. Je fais ce que je peux, naturellement. Mais Dieu, tu donnes. Tu as fait la promesse de dans cette parole. Tu donnes la semence à celui qui sème. Ben oui, naturellement. Et tu donnes le pain à celui qui mange. Il faut d'abord que le premier passe. Et pour que l'autre se nourrisse. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Moi, j'espère que pendant 20 ans qu'on a été avec vous, vous n'êtes pas mort de faim. Je ne vous vois pas dépérir. Hein. Les joues creuses, les yeux complètement là, défaits, etc. Non, je vous vois bien. Ah oui, oui, oui. Et je vous vois en pleine forme. Il y en a qui n'ont pas grossi, mais il y en a d'autres. Paf ! Oh là là ! Non, non, mais excusez-moi, mais c'est parce que j'aime pas plaisanter. Non, non, mais vous savez que notre cœur, votre cœur et mon cœur sont avec vous. Ah oui, non, non, mais attendez. Voilà, c'est des petits clins d'œil que je fais, tout simplement. Eh bien, « Jette ton pain » s'explique selon deux appels impérieux. C'est secourir et c'est témoigner du bien à faire. Ouais, c'est ça le but. Mais le bien à faire, ce n'est pas le mal à faire. Je ne cherche pas des choses qui, finalement, iraient dans le sens contraire de la volonté de Dieu, non. C'est tout simplement le secourir, le secours et le témoignage du bien à faire. Parce que moi, je crois que Dieu est caché derrière un geste, derrière un don, par quelqu'un de bien intentionné qui ignore son geste. Il ignore. Regardez, parce que Jésus a eu mal à partir avec les pharisiens. Vous savez les petites pièces dans le truc ? Et il montait pour que ça sonne bien dans le fond du tronc. Voilà. Pour dire, moi, nous sommes riches, nous donnons, etc., etc. Non. Quelqu'un de bien intentionné qui fait les choses dans l'anonymat, mais qui le fait de tout son cœur. Et ça, c'est important. C'est important tout cela. Hein ? Alors, on comprend que Jésus a eu des problèmes avec ses amis, les pharisiens. Un geste, un don, quelqu'un donc qui ignore son geste et qui ne sait pas ce qui va devenir ce geste, tout simplement. Et nous avons cette parole, tout simplement, il est dit, c'est toujours une question de jeter. jette ton or dans la poussière, vous reconnaîtrez, parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Dixit Job. Et c'est vrai que quand on donne, on ne s'appauvrit pas. Quand on donne, on s'enrichit. Même si vous n'avez pas, même si vous n'attendez pas qu'il y ait un retour, même s'il n'y a pas de retour, mais il y en aura toujours un, de toute façon, à un moment ou un autre, un retour. C'est dans de Job. Il est dit également, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde d'après la justice, son cœur est confiant en l'Éternel. » Ben oui, il fait confiance à Dieu, tout simplement. Il est dit à un moment donné dans l'Évangile, « Donnez, prêtez, sans rien espérer, et votre espérance sera grande. » Ou encore dans Matthieu chapitre 10, « Quiconque donne un verre d'eau, il ne perdra pas sa récompense. » Et cette récompense sera assortie des plus belles promesses au retour de Jésus-Christ. Merci mon cher Jean, tu m'as apporté un abreuvoir derrière. Parce qu'il fait chaud. Hein. Mais si vous voulez, quand je viendrai ou je reviendrai, si je reviens, apportez-moi tous un petit verre d'eau. Vous les mettez là et puis je les boirai ensemble, on les boira ensemble. Voilà, mais de l'eau, hein, pas de l'eau de vie. Parce que là, on ne va pas être bien. Hein. Oui. Exactement, c'est l'eau de la vie. Très juste. Bon, alors, en conclusion, ça vous va? Oui, vous avez plus soif? Bon, bah dites-le. On va vous chercher... On va vous chercher ce qu'il faut. Conclusion. Celui qui jette à la mer, celui qui reçoit opportunément, et c'est Dieu qui... Retenez bien l'image, c'est Dieu qui dirige la main de celui qui reçoit. Oui, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Et c'est lui. Celui qui reçoit, il va tendre la main. La main de celui qui donne et Dieu qui, dans son secret, ouvre les écluses des cieux. Moi, j'aime bien cette expression dans la Bible. Dieu ouvre les écluses des cieux. Qu'est-ce que c'est que les écluses? Vous savez, vous en avez ici, là, sur le... Il y a des grandes écluses, hein. Moi, quand j'étais en Hollande, il y avait les plus grandes écluses du monde, hein, au-dessus d'Amsterdam. C'était extraordinaire, tous les gros bateaux qui rentraient dans le port d'Amsterdam. Alors ça maintenant, ça a été dépassé, hein, parce qu'avec Eurodelta, c'est fini maintenant, hein, c'est dans le sud de la Hollande. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment presque le Niagara, les chutes du Niagara. Hein. Bon, maintenant, c'était dans les années 60-70, tout ça. Mais c'est un bouillon, etc. Et puis alors après, l'eau se stabilise et puis les bateaux, ils montent. Et combien de fois nous avons fait du vélo avec les enfants et puis et nous étions finalement dans le creux sur le chemin et le canal était au-dessus de nous. On le regardait comme ça le bateau. Extraordinaire. Hein. Allez en Hollande, vous verrez des tulipes, mais pas que des tulipes. Hein. C'est un beau pays. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir tout ça. Ouvre les écluses des cieux. C'est une... parole de confiance, de réussite, et c'est oser le ciel. Oui, parce que dans le ciel, il n'est pas vide. Il y a des trésors, nous dit la Bible. Dieu a des trésors. Et dans sa miséricorde, pour celui qui l'aime, pour celui qui lui obéisse, celui qui veut vivre selon sa volonté, eh bien Dieu est capable de donner des trésors. Dieu sera ton or, il sera ta richesse, il sera ton argent. Et c'est vrai. Parce que c'est toujours Dieu qui conduit, quoi qu'il en soit, et rien à craindre. Et dans ce rien à craindre, j'aimerais simplement terminer par Ésaïe au chapitre 43, où il est dit cette parole, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir s'en référer avec ce qui nous est dit. Écoutez bien. « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, Dieu dit à Israël, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, parce que tu es à moi. » Nous sommes au Seigneur, parce que tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que ça vous a rafraîchi. Hein? Et puis toutes les bouteilles, y compris plastique, verre et tout ce que vous voulez, vous les mettez à la mer.
On jette tout dans le...
Oui, voilà, exactement. C'est la publicité qui est faite aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants. Et merci pour votre attention et merci d'être à partager ce culte ce matin ensemble.
Amen.
Voilà. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a tant d'exemples dans la vie des hommes. Il y a des choses, Seigneur, qui véritablement eh bien, font partie de notre vie quotidienne, qui eh bien, nous parlent que nous, nous sommes sur la terre, mais toi, tu es au ciel. Et du ciel, tu nous conduis. Même si quelquefois nous sentons en effet les vents, les ouragans, que si quelquefois nous sommes ballottés et naufragés, mais Seigneur, tu es là pour nous faire vivre. Et nous te remercions et nous te bénissons. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que nous croyons qu'il peut y avoir en effet cette bouteille qui flotte, mais il y a aussi cette parole qui est la Bible et qui a flotté à travers les siècles, qui a été brûlée, qui a été détruite, hein, qui a été véritablement méconnue ou mal connue. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu toujours une sauvegarde de ta parole pour qu'elle reste toujours la bouteille à la mer, pour le monde en détresse, le monde qui n'est pas sauvé, pour que véritablement il se tourne vers toi et croit que Jésus-Christ est véritablement le capitaine, le commandant de leur vie. Parce que finalement, eh bien, la vie, c'est comme là, quelque part, un esquif qui va de droite et de gauche et qui véritablement eh bien, arrive au port désiré. Conduis-nous et dirige-nous au port désiré. Merci, mon Sauveur, pour le message qui nous a été donné à travers cette bouteille à la mer. Amen.
Amen.